Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec la police des fleurs de la critique. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, duel Nelly Capriélian, désinrecuptible maître Michel Crépu de la Nouvelle Revue française, Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de la Revue Charles pour parler ce soir de Lolita, la véritable histoire, des Testaments de Margaret Atwood, de Girl d'Edna O'Brien, de La police des fleurs de Romain Puertolas et de l'affaire Nobel d'Olivier Truc dans le courrier de la semaine. Eh bien, nos auditeurs sont très sévères. Ça arrive, parfois plus que les critiques. D'abord pour Encre sympathique de Patrick Modiano, le docteur Rémi Bourlier a éprouvé un bref ennui, le livre étant heureusement court, livre transparent, peuplé de personnages fantomatiques et amnésiques. J'esquive l'intrigue, il n'y en a pas, ou Raphaël Norpois, suivant les recommandations positives du masque. J'ai lu Encre sympathique, mais j'ai été très déçu. Modiano écrit toujours le même livre depuis 50 ans. Son petit jeu littéraire, sous forme de labyrinthe, est totalement vain et pathétique, vite lu, vite oublié. Ils sont terribles, hein, ces auditeurs.
Oh, ils sont durs. Là,
ils sont pas plus tendres, je vous rassure, pour la clé USB qu'on a aussi beaucoup aimé, comme le Modiano de Jean-Philippe Toussaint. Stéphanie Reboul de Grenoble, cher masque, je viens de finir la clé USB, je suis effondré, votre enthousiasme pour ce livre, vide, ouvert aux quatre vents, m'effare. Jusqu'au dernier mot du livre, je m'attendais à un rebondissement, un semblant de vie, mais rien, très décevant, ou encore Claude de Bouc-Bel-Air en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour les amis du masque, votre point de vue positif sur la clé USB m'a incité à me le procurer et le lire, mais le livre est lent, sans enchantement dans le style d'écriture, sans tension dans le récit. Tout ce qui arrive à ce brave fonctionnaire européen est banal et prévisible. J'ai l'impression de m'être fait tromper par votre unanimité positive qui m'étonne. Eh oui.
Oh bah alors.
Alors heureusement, il y a Philippe Chavernac qui lui a apprécié la clé USB. Il trouve que c'est un roman d'espionnage contemporain très bien écrit qui prend un autre tournant dans la dernière partie avec plus de gravité et touchant à l'essentiel. Mais c'est le seul. Flo Bourdi a rencontré un problème, elle, avec La mère à l'envers de Marie Darrieussecq chez POL. Gros problème de scénario, gros problème de personnage. Ce livre aurait pu être très bien, mais il manque de travail. Je suis donc frustré. J'aime beaucoup quand on reproche aux écrivains de ne pas travailler assez. Jean-Paul Lebris, en revanche, lui, il nous écrit pour nous dire « Cher masque aztèque aux plumes inca, merci Arnaud Vivian d'avoir volé au secours d'Atahualpa et de Laurent Binet, dont il a aimé seul le foisonnement imaginatif et cependant cohérent. De grâce, cher masque, ne décourage pas les audacieux tentés par l'aventure. » Entre-temps, il avait du pif, Arnaud, puisque Civilisation de Laurent Binet a reçu le prix du roman de l'Académie française.
Et ouais, après Joël Dicker, faut le faire.
Tu vois, pourquoi tu ajoutes un truc méchant,
Arnaud.
Toujours pour toi, Arnaud, et c'est à propos de la Touraine où se situe le roman posthume de Françoise Sagan, Les Quatre Coins du Cœur. Marguerite Von Rosendahl s'énerve donc contre toi. Non, mais je rêve. Merci de dire à Arnaud, et c'est, le sujet est important, donc ne riez pas, s'il vous plaît, que les rillettes viennent de la Sarthe et pas de la Touraine, de toutes les créations sartoises, s'approprier celle-ci, c'est vraiment dégueulasse.
Alors, là, le sujet d'importance, effectivement les rillettes du Mans, oui. Mais les rillettes de Tours n'ont strictement rien à voir avec les rillettes du Mans. Ceux qui connaissent vraiment la notion, le concept même de rillettes, savent faire la différence entre les rillettes du Mans et les rillettes de Tours.
Enfin, à propos justement, après les propos tenus lors du Masque et la Plume, où il fut question de ce roman posthume de Françoise Sagan, Les Quatre Coins du Cœur, son fils Denis Westhoff nous écrit... En acceptant la succession de ma mère il y a 15 ans, je n'ai eu de cesse de faire revivre son œuvre. La publication de cet inédit et la prolongation de cette volonté. Certains me reprochent d'avoir fait publier ce texte, mais il semble que si l'on découvrait une œuvre de Rodin au fond d'un hangar, fût-elle inachevée, on s'empresserait de la dévoiler au public. Par ailleurs, je réfute catégoriquement avoir réécrit des passages ou lissé le texte, comme cela a été dit dans votre émission. Je reconnais néanmoins mon erreur d'avoir laissé l'éditeur faire son travail d'editing au lieu de publier le manuscrit dans son état primitif.
D'autant voilà. qu'il y a eu des rebondissements sur cette affaire depuis notre émission. Une très bonne enquête de Marie-Dominique Lelièvre
dans le journal du dimanche,
avait oui. eu accès au manuscrit oui. et qui semblait avoir remarqué qu'il y avait une écriture différente que celle de Françoise Sagan qui avait réécrit une grande
partie
du manuscrit.
Mais Denis Westhoff nous écrit après avoir lu cette enquête. Hein.
Oui.
Et voilà. pourtant lui-même, enfin dans l'introduction, il me semble qu'il dit
oui,
il a comblé des manques.
Il a comblé c'est... des trous, mais bon, enfin, voilà.
C'est en très tout mystérieux, en tout cas, c'était pas clair.
C'est un droit de réponse que ouais. je me devais de lire. Ah c'est oui, l'événement de la saison. 35 ans après La Servante écarlate, la Canadienne Margaret Atwood, 79 ans, publie sa suite et son épilogue. Ça s'appelle Les Testaments. C'est chez Robert Laffont. C'est 550 pages. Arnaud, traduite par Michel Albaret Match. Un roman auréolé du prestigieux Booker Prize. La Servante écarlate, je le rappelle, est un roman de science-fiction qui décrit, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans un futur dystopique, un monde totalitaire où les femmes sont asservies, déportées, où seules les servantes aux robes écarlates sont destinées à la reproduction. Un roman vendu à 8 millions d'exemplaires qui a été adapté au cinéma par Schlondorff, mais ça, personne n'en a parlé à l'époque, et surtout popularisé par une série avec Elisabeth Moss, faisant de Margaret Atwood une icône du féminisme, j'ai même envie de dire du néo-féminisme. L'Action des Testaments, ben, ça se situe 15 ans après La Servante écarlate, avec trois héroïnes principales, Tante Lydia, qu'on connaissait, ancienne juge devenue l'administratrice de la communauté féminine de Gilead, et puis deux jeunes filles, Agnès et Daisy, l'une qui a grandi à Gilead, métaphore des États-Unis, l'autre au Canada voisin, voilà, les États-Unis, où faut-il le rappeler ou le préciser, celle qui manifeste pour les droits des femmes porte désormais et la robe écarlate et la cornette blanche du roman émanant du diptyque. On va commencer par les femmes, Olivia.
Eh bien, ça m'a fait penser au dernier album d'Astérix, où sur la couverture, il y a marqué en énorme Uderzo et Goscinny. Et on se dit, c'est bizarre, est-ce qu'ils sont pas morts tous les deux? Donc il y a des gens aujourd'hui qui écrivent des suites à des grands succès populaires. Et là, il me semble que ce livre aurait pu être écrit par une bonne faiseuse anglo-saxonne à qui on aurait donné un gros contrat et un gros chèque pour écrire la suite de La Servante écarlate. Tant, c'est un livre pas déplaisant à lire, assez haletant, assez bien construit, mais on a l'impression que Margaret Atwood a écrit directement le scénario de la prochaine saison de La Servante écarlate. Il n'y a aucun style, alors que vraiment j'ai repris La Servante écarlate, que j'ai lu il y a pas très longtemps, il y a 5 ou 6 ans.
Tu l'as lu après la série?
Moi, je n'ai pas vu la série, parce que moi, je refuse de regarder des séries. Et je pense qu'il est temps de dire que les séries, ça suffit.
Pourquoi
les séries sont en train de cannibaliser le monde.
Vrai,
et donc,
ça.
De cannibaliser la littérature.
Je suis d'accord avec Olivia.
Puisque...
J'ai réveillé Michel.
Ah bah, vous voyez, déjà, c'est pas mal.
Michel a une très belle collection de cassettes où il regarde ses films régulièrement.
Mais oui, il a raison. Mais moi, je les regarde avec lui en VHS. Et on est très contents, Michel et moi. Il me semble que l'écriture de séries a entièrement déteint sur la manière dont écrit Margaret Atwood.
C'est clair.
C'est-à-dire zéro
c'est
style.
Vrai, c'est dorénavant dans les trains, c'est là. Les gens regardent des séries et ils ne lisent plus de livres. Ça, c'est,
oui, oui,
ça, c'est
et puis vrai. Même ils partent au milieu des dîners parce qu'il faut qu'ils aillent voir la fin de leur série.
C'est
insupportable.
Une plaie, c'est une...
Donc,
j'ai jamais vu ça.
T'as jamais vu ça? Mais non, si, ils sortent plus, ils restent chez eux, ils coucounent, ils commandent des sushis et ils regardent des séries. C'est le monde nouveau et on nous dit que c'est mieux qu'avant. Non, c'est pas du tout mieux qu'avant. Pas de style. Il y a des phrases du genre « on s'était donné rendez-vous ce midi ». Non, c'est pas possible, on peut pas écrire ça. Deuxième chose, la manière dont le livre est construit, avec trois histoires parallèles, on voit vraiment exactement l'image et la série qu'on va pouvoir regarder. Et puis, il y a un autre problème, me semble-t-il. C'est que La Servante écarlate était un livre assez visionnaire sur le rôle des femmes dans la société. Celui-là n'est pas visionnaire. En fait, c'est un livre qui est une sorte de décalque critique de l'Amérique de Trump aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel l'avortement est interdit, évidemment, le divorce est très méchant, et qui déifie la femme comme reproductrice. Je trouve qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, que c'est vraiment... Décevant.
Mais je suis pas sûr qu'elle ait eu envie vraiment de l'écrire. Est-ce que c'est pas le succès du premier qui l'a
écrit? Oui, moi j'ai l'impression.
Donc c'est pas pourquoi elle l'a écrit. C'est dommage.
Opportuniste.
On sent pas la nécessité.
Totalement opportuniste. Je pense que le premier suffisait. Je trouve que ce qui est génial dans cette, enfin le coup de génie qu'elle a quand même, c'est que au fond elle présente ça comme une société futuriste et ce mot à la mode que j'adore, une dystopie. Mais au fond, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'invente rien. C'est-à-dire que tout est vrai. C'est-à-dire que les femmes ont vraiment subi certaines choses comme ça. Elles l'amplifient à peine. Par exemple, le fait qu'elles doivent être complètement recouvertes de tissus et voilées, le fait qu'elles doivent être complètement soumises au patriarcat et faire des enfants, etc. C'est quand même l'histoire des femmes. Or là, mis dans ce contexte-là d'une société totalitaire qui est d'avance présentée comme quelque chose d'atroce, là, on se dit tous, ah mon Dieu, c'est atroce, ces femmes réduites en esclavage. Ça fait quand même 2000 ans que ça dure, cette histoire. Personne n'a vraiment bronché. Pour moi, c'est son coup de génie. C'est de n'avoir, et d'ailleurs, elle l'a dit en interview, elle n'a jamais rien voulu inventer, elle ne s'inspire que des situations réelles. Mais alors, celui-là, je trouve que pour moi, c'est un livre pour jeunes adultes. C'est pas de la littérature, c'est une sorte de best-seller, de patch-turner
qui marche très bien,
pour jeunes adultes.
Moi, je parle en France.
Qui marche très bien, bon bah tant mieux, mais si tu veux, moi ce qui me gêne plus, c'est quand même le Booker Prize. Je trouve que c'est un truc de, comme disaient les Anglais, de virtue signaling, c'est-à-dire pour dire à nous, attention, on est super féministes, parce que maintenant, le féminisme est à la mode, enfin ça fait quand même nous... Des années, Olivier et moi.
Olivier
d'ailleurs.
Moi, je suis féministe.
Olivia.
En tant qu'Olivier de
Si Olivier est là, qu'il se signe. Hein.
Mais oui, on est genderfluid.
Mais évidemment, mais je suis d'accord avec toi.
Mais oui, bien sûr. Et tout d'un coup, le Booker Prize se révèle et lui donne un prix qu'elle ne mérite absolument pas.
Arnaud.
J'ai beaucoup ri, mais beaucoup ri en lisant ce livre, tellement c'est con. C'est vraiment... Il y a un moment... Alors, la traductrice se prend un peu pour José Camoun, retraduisant 1984. Elle a même changé le nom du pays. C'est pas Gilead que tu l'as dit.
C'est Galad.
C'est très bizarre.
Voilà, donc il n'y avait pas un chocolat.
On ne sait pas exactement pourquoi. Et donc, à un moment, il y a un jeu de mots qu'elle s'est refusée de traduire. Elle a rechigné à le traduire, ou elle n'a pas réussi à le traduire. C'est un moment, ils sont là... C'est vraiment, c'est tellement absurde. Il parle d'un stylo qui sert à faire passer des microfilms. On se croirait dans un vieux James Bond, on ne sait pas du tout où on est. Et donc là, il y a le type qui dit, il fait une blague, il dit « Pain is envy ». Vous voyez pas la blague? Donc ça continue un peu plus loin. Il y a ce dialogue que j'adore. Hein. Eh bien, ce sont les pénis. On jurerait une phobie. Les pénis, ai-je répété d'un ton pensif? Encore eux. Et après, cette phrase que j'aime encore plus. Ah oui, dans les expériences de pensée, les pénis peuvent devenir incontrôlables. Ils vivent leur existence propre. Mais mon Dieu, si c'était vrai, ça serait là encore. Bon, mais et donc, tout est de ce niveau-là. Et vous vous dites, mais comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible autant
ça
de
ça ne change rien, encore une fois, au statut de Margaret Atwood, qui est maintenant quasiment iconique. Hein.
Ça ne change rien à La Servante écarlate, qui est un grand livre. Voilà. Mais il y a un autre problème, c'est qu'on découvre tout avant elle. C'est-à-dire que le grand truc du livre, c'est Bébé Nicole. Bébé Nicole,
on va laisser parler un tout petit peu Michel et ne pas passer toute l'émission sur ce testament. Allez Michel.
On s'en finit par s'en foutre de Bébé Nicole.
Michel.
Je dois dire d'abord que c'est le premier livre de Margaret Atwood.
Tu n'avais pas lu La Servante écarlate?
Non, j'ai lu La Lettre écarlate, mais je n'ai pas lu la série.
Toi, tu pratiques l'eau écarlate aussi.
Non, mais je prends les choses dans l'ordre.
Oui, vas-y dans l'ordre.
Donc, je me suis dit, je ne vais pas avoir de préjugés, je vais y aller, on verra bien ce qui se passe. Et puis, je dois dire, comme j'avais décidé de ne pas avoir de préjugés, j'étais assez impressionné par la première page. Je me suis dit, mais c'est beaucoup mieux que ce que je croyais. C'est une thématique énorme. Et je me disais, mais l'après Orwell est commencé. Voilà. On est dans un monde que Margaret Atwood met en scène avec la même maestria qu'Orwell. Et donc, je suis parti, bille en tête.
Mais t'arrives là, à la page 2.
Non, je ne vois pas passer les kilomètres. Et puis, brusquement, le moteur cale. Je descends, j'ouvre le capot pour voir, et je constate que je vais pas pouvoir redémarrer, parce que je réalise qu'en réalité, je n'ai absolument rien compris à ce galimatia pseudo-biblico...
Politico.
Politico-trucmuche, enfin... Comme j'avais toujours des bonnes intentions de bien me comporter avec ce livre, de pas passer pour un petit mâle vindicatif.
Au pénis incontrôlable.
Au pénis incontrôlable.
Oh, encore celui de Crépu, il peut être incontrôlable.
Hein. J'ai dit à mon pénis, on y va mollo. Et puis je suis rentré à la maison et je me suis dit qu'il y avait un problème, effectivement, avec cette romancière qui a un statut inouï.
Enfin, inouï, mondial.
Après, c'est Michel-Ange et Harry Potter. Mais je ne vois pas comment on peut aller plus loin dans l'envergure honorifique. Enfin, c'est absolument extravagant.
Voilà ce qui reste des 550 pages des Testaments de Margaret Atwood chez Lafont. Autre roman féministe, à qui d'ailleurs le jury du Femina vient de remettre un prix spécial. C'est Girl de l'Irlandaise Edna O'Brien, 88 ans, roman publié chez Sabine Vespissaire et traduit par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Doza, s'inspirant de l'histoire des lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram en 2014. Edna O'Brien se glisse dans la peau de l'une d'elles, Mariam. Elle raconte donc à la première personne l'éruption des djihadistes en armes dans l'école, la traversée de la jungle en camion, l'arrivée dans le camp, les sévices, les tortures, les viols, son mariage forcé à un djihadiste et puis son évasion avec la fillette qu'elle a eue en captivité. Et quand elle rentre dans son village, elle devient non pas la victime mais la coupable, puisqu'elle est coupable d'avoir enfanté un être souillé par le sang de l'ennemi, donc une paria. D'ailleurs, je précise que Edna O'Brien s'est rendue au Nigeria et qu'elle a rencontré beaucoup de victimes de cette tragédie. Michel.
Alors, je dois confesser un embarras, parce que j'aime beaucoup Edna O'Brien, je la lis pour le coup, là c'est pas comme Margaret Atwood, j'ai lu ses livres, je la connais bien, je me souviens même l'avoir interviewée il y a longtemps, elle m'avait beaucoup impressionné, je veux dire, une présence physique.
J'aime pas ce genre de préambule en général.
Oui, moi non plus. Et là, mon embarras, en fait, c'est que, j'ai été très touché par cette histoire, même plus que ça, mais l'étiquette roman me gêne. Ça ne va pas. Ça m'arrive jamais d'avoir ce genre de réaction. En réalité, habituellement, je m'en fiche. Mais là, ça coince. Et on voit bien pourquoi. On voit bien pourquoi. Parce que c'est une question qui reste, à mes yeux, là, problématique, de s'approprier le destin de ces jeunes filles que l'on connaît. Enfin, on sait ce qu'il en a été. Ça fait partie des choses les plus terrifiantes qu'on puisse imaginer. Alors, l'Irlande là-dessus, les souvenirs d'enfance, la façon dont, bien sûr, je sais très bien, l'Église catholique irlandaise s'est très mal comportée, etc. Je connais par cœur tout ça, et ça a produit énormément de bons livres, de bons films, et ça en produira encore, je n'en doute pas. Mais là, je coince. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette
approche. Je suis pas sûr que l'idée d'ailleurs de la première personne soit une bonne idée.
Oui, oui.
Si j'ose
oui.
dire, parce que c'est convaincant au début, puis ça devient un peu systématique.
C'est convaincant au début, effectivement, voilà. Parce qu'on n'est pas encore dans le truc. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, ça ne va pas.
Nelly.
Oui, je suis assez d'accord avec Michel. En fait, je pense que même si c'est louable comme initiative de mettre la littérature au service de ce récit-là, de cette trajectoire-là, de cette horreur-là, en même temps, je trouve que le livre ne décolle pas. C'est-à-dire que peut-être qu'un autre écrivain... je sais qu'elle est aussi très vénérée, Edna O'Brien. Moi, contrairement à Michel, j'ai jamais vraiment accroché avec ses textes. Mais là, je trouve qu'il manque... il manque peut-être un écrivain, finalement. Enfin, je trouve que tout est bien fait.
Ça, c'est un peu dur, ça, quand même.
Non, mais je veux dire, un écrivain qui se l'approprierait, qui en ferait vraiment quelque chose. Là, je trouve qu'elle raconte d'un bout à l'autre.
Oui, c'est très littéral,
enfin,
en fait.
C'est digne, enfin, c'est très digne, c'est très louable, c'est très... J'ai appris des choses, enfin, voilà, mais c'est un peu décevant.
Ça manque d'humilité, tout ça, en fait.
Ou ça manque de quelqu'un. Enfin,
Olivia.
Ah non, moi, je vous trouve très dur. D'abord, je trouve que la démarche de Edna O'Brien est absolument incroyable. Elle a 88 ans, c'était la meilleure amie de Philip Roth, elle a couché avec Robert Mitchum, elle a...
Je vois pas le rapport, là.
Enfin, une nuit.
Un pénis incontrôlable.
Une seule nuit avec Robert Mitchum.
Incontrôlable. Et plutôt que de cultiver son jardin à Londres, elle part à la gauche interviewer les gamines.
C'est honorable, voire...
88 ans,
je trouve que la manière dont elle restitue leurs paroles est très honorable, parce que c'est vraiment des filles qui n'avaient plus de mots. La première chose qu'elle dit, quand elle retrouve sa mère, l'héroïne, elle dit « ne me demande rien ». elle est absolument incapable de restituer l'expérience absolument atroce qu'elle a vécue. Et d'ailleurs, la plupart de ces jeunes filles ont leur coupé la langue. Donc, c'est vraiment une sorte de tragédie où il n'y avait plus de mots. Et je trouve que la manière dont, à la première personne, et moi j'aime bien que ce soit à la première personne, justement, elle va restituer cette expérience absolument incroyable, et avec beaucoup de romanesque. Ce n'est pas juste un témoignage, la manière dont elle raconte le camp et les viols systématiques des filles. Moi, j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'ai trouvé que les 50 premières pages, c'est insoutenable. Mais je l'ai fait vraiment par une sorte de devoir de mémoire vis-à-vis de ces gamines. Les 50 premières pages sont atroces. Après, il y a plus de romanesque, l'évasion et la survie dans la forêt. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et puis.
Mais après, t'as le retour dans la, si j'ose dire, la vie civile ou réelle.
Et qui est encore plus atroce. Et moi, je ne savais pas que justement, ces jeunes filles, quand elles étaient revenues,
d'avoir couché.
On leur reprochait évidemment d'avoir couché avec l'ennemi. Et en plus, on imaginait qu'elles étaient sans doute instrumentalisées par les djihadistes et que peut-être elles allaient elles-mêmes poser des bombes. Donc le retour est encore pire parce qu'on se dit qu'on va avoir un peu de compassion pour ces filles de 16 ans qui ont vécu l'enfer. Et la compassion vient de certaines associations, mais est très difficile. Et elle montre, comme dans toutes les affaires de viol dans le monde entier, comment les victimes deviennent des coupables. Moi, je trouve que c'est un livre très extraordinaire. En fait, j'ai été très, très impressionné.
Arnaud ?
Écoutez, une fois que vous avez lu les aventures de cette fille, d'ailleurs, moi, j'imaginais la tête de l'éditeur quand il a reçu le manuscrit et qu'il a vu le titre « Girl ». C'est fort, hein. Ça, c'est fort. Et en plus, cette girl, donc, qui n'est jamais nommée, qui est très rarement nommée, elle s'appelle
Marianne.
Mais le titre, c'est pas Marianne. C'est-à-dire que c'est déjà, on rentre dans une espèce de vision complètement conceptuelle. Voilà. Donc, c'est la fille, girl.
Ça commence
à même pas le traduire, alors, d'ailleurs. Elle a un enfant qu'elle appelle Babi. Et là, vous vous dites, oh là, là, ça est vraiment. Et donc, vous lisez sa sinistre aventure, évidemment. Candide à côté, c'est un lit de rose qu'il va vivre. Donc, elle, voilà. Et vous tombez sur 5 pages de remerciements à la fin. Alors, c'est remerciements très hiérarchisés, hein, l'éditeur occulte, l'éditeur américain, etc. Et ça se termine, évidemment, last but not least, par, je vous cite les phrases parce que chaque mot est important. Les petites mains. La cohorte diligente et toujours obligeante des inlassables dactylos. Et juste avant, dans la page avant, elle raconte qu'elle a été invitée par Women for Women International, qui est un groupe de femmes qui avaient souffert toutes sortes de privations. Oui, c'est ce qu'on vient de lire, donc. Et donc, elle est invitée, et à un moment, donc, on lui demande de porter une robe de cérémonie Peul. On est chez les Peuls. Et vous voyez ce qu'elle a dit ? À la fin, on m'a offert une robe honorifique, aux couleurs vives, dans laquelle, à mon grand embarras, j'ai été photographiée. C'est-à-dire qu'à 88 ans, Edna O'Brien, elle est embarrassée d'être photographiée dans une robe de cérémonie Peul. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, finalement ? Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre ? Que racontent ces gens ? C'est de l'appropriation culturelle dans ce qu'il y a de plus détestable. Et le seul personnage sympathique de ce livre, c'est un Anglais, comme par hasard, qui, un moment, ils sont dans un taxi, fait arrêter le taxi. Il achète des oranges à une petite vendeuse d'oranges, et puis il les pèle, et Edna O'Brien dit, hein, il les pèle, vous voyez, comme seul un Anglais sait peler une orange avec un couteau, sans découper, hein, il fait une pelure exacte, et puis après, il partage dans tout le taxi, il donne des morceaux d'oranges, et la pauvre girl, hein, elle dit, c'était le moment le plus divin de ma vie. Voilà ce qu'on nous vend. Eh bien ça, excusez-moi, c'est juste du racisme.
Alors là, je te suis pas du tout. Hein.
Girl est une chanson des Beatles.
Ouais. Oui, c'est pas avec ça que tu vas remettre de l'ambiance à cette tribune, Michel. Vraiment, tu fais un effort. Mais
je te suis pas dans ta démonstration, à vrai dire, de la robe Peul.
Là, je ne faisais que citer ce qui est écrit dans le livre, rien d'autre.
Girl.
Si vous trouvez que quelqu'un trouve ça embarrassant d'être photographié dans une robe de cérémonie Peul, eh ben alors vraiment, c'est qu'il y a un problème.
Oui, mais l'embarras ne vient pas de la robe Peul. Enfin, je pense que tu te fourvoies.
C'est elle qui dit que c'est embarrassant pour elle.
Girl, c'est donc Edna O'Brien et c'est chez Sabine Vespisser. Lolita, la véritable histoire, sous-titrée l'affaire qui a inspiré le chef-d'œuvre de Nabokov, Au seuil. Traduit par Isabelle Chapnan, c'est un essai de la journaliste américaine Sarah Weinman. Je rappelle aux oublieux que le roman de Nabokov était présenté comme la longue confession d'un homme, un berimbère, qui racontait sa relation avec une jeune fille de 12 ans et demi. Un livre qui, à sa sortie en 1955, a provoqué et scandale et censure. À l'origine, un fait divers, d'ailleurs mentionné très brièvement par un berimbère lui-même, c'est l'enlèvement en 48 dans le New Jersey de la petite Sally Horner, 11 ans, par Frank LaSalle, un mécanicien quinquagénaire qui prétend être inspecteur du FBI et qui l'a entraîné dans un périple de 21 mois ponctué de viols à travers les États-Unis jusqu'à son arrestation en 1950. Alors voilà, c'est comme le dit le titre du livre de Sarah Weinman, le roman de Nabokov est un chef-d'œuvre, le fait divers qui l'aurait inspiré, ce que d'ailleurs Nabokov a toujours nié, malgré cette petite phrase. Ce fait divers est évidemment odieux, et puis en 50 ans, les mœurs ont, Dieu merci, évolué sous le coup de crimes pédophiles qui ont bouleversé l'opinion. Cette histoire, donc, on peut dire que Sarah Weinman a tellement enquêté qu'elle a quasiment tout retrouvé. Je signalerai après l'apparition d'un autre petit livre, je crois qu'il avait été conseillé par Frédéric Becbédé à la fin d'un masque, de Christophe Tison. Ça, Arnaud, qu'en penses-tu ?
Alors, ce que j'en pense, d'abord dans ton lancement tu as dit quelque chose qui me semble faux, c'est tu as dit à l'origine, mais je pense pas que ce fait divers soit à l'origine de l'écriture de Lolita, absolument pas. Il se trouve qu'une fois qu'il a commencé ce chantier,
comment il faut quand même savoir comment fait-il que Nabokov l'ait cité discrètement dans son livre.
Non, mais c'est pas elle l'origine. Elle explique qu'à un moment, il a mis 5 ans à écrire ce livre. D'ailleurs, il a voulu brûler le manuscrit à un moment. C'est Vera, sa femme, qui a sauvé le manuscrit des flammes. Donc, à un moment, évidemment, il travaille et il lit des faits divers. Et donc, il découpe dans le journal des choses qui vont effectivement alimenter la rédaction du roman. Mais c'est pas l'origine, d'ailleurs. On sait bien que c'est pas l'origine, puisque la véritable origine de Lolita, c'est une nouvelle qui est apparue dans les années 80, qui s'appelle L'Enchanteur, qui est une nouvelle qu'il a écrite lorsqu'il était en France. C'est ça l'origine de Lolita. Oui, ce n'est pas ce fait divers. Donc ce livre est une manœuvre sournoise une manœuvre sournoise pour ramener la littérature à sa littéralité. C'est-à-dire que littéralement, c'est un roman sur un pédophile, mais pas littérairement. Littérairement, ce n'est pas un roman sur un pédophile. Nabokov, comme Flaubert, dont le roman était aussi inspiré par un fait divers, donc Madame Bovary, Nabokov aurait très bien pu dire « Lolita, c'est moi ». Pourquoi ? Parce que le créateur est dans toutes ses créatures. Et si ce livre est un grand livre, c'est précisément parce que Nabokov est dans tous ses personnages. Je pense que ce livre est détestable. Il essaye de ramener, encore une fois, la littérature à quelque chose de littéral. Eh bien, c'est moche.
Michel, veux-tu ajouter quelque chose ?
Oui, je veux bien ajouter quelque chose. Je suis très sensible à ce que vient de dire Arnaud. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que je pense que le livre échoue à cette manœuvre.
Quel livre ?
Le livre dont on parle.
Non mais vous riez, mais on parle de deux livres. On parle de Lolita, le roman de Nabokov.
C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai énormément aimé ce livre. Il m'a beaucoup intéressé. Je ne l'ai pas aimé, mais il m'a beaucoup intéressé. Et il m'a intéressé pourquoi ? Parce que, notamment dans l'histoire de Frank LaSalle, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer quel fabuleux livre Truman Capote aurait tiré de cette histoire.
Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le sujet.
C'est
Nabokov qui a écrit Lolita.
Je sais bien. Mais en lisant le livre de Sarah Weinman, je me suis rendu compte qu'elle était débordée par son sujet. Elle voudrait nous donner une leçon de féminisme littéraire qui ne marche pas bien parce que tout le matériau est beaucoup plus fort, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus contradictoire, beaucoup plus... Et donc, un écrivain, effectivement, pourrait raconter cette histoire, Sally.
Elle veut pas faire un livre de littérature sur Frank LaSalle.
Je veux dire que le livre qui est une sorte de travail universitaire au départ, finalement, presque, est pris à revers et il est débordé par un tas de choses qui le font exister autrement. Et c'est ce qui m'a intéressé vraiment beaucoup en lisant ce livre.
Nelly,
Moi, j'ai trouvé le livre passionnant et je suis en désaccord avec quasiment tout ce qu'elle dit. Enfin, il y a une sorte d'idéologie qui parcourt le livre et en cela, je rejoins assez Arnaud. Mais moi, j'ai trouvé passionnant. C'est-à-dire que toute cette reconstitution, quasiment malgré elle, de l'Amérique des années 40, de ce premier cas de kidnapping, de pédophilie, de la façon dont Frank LaSalle kidnappe cette petite fille, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de violence, en tout cas de prime abord.
Il y a une espèce d'emprise.
La mère...
Il l'emmène de motel en motel.
La mère qui pose pas plus de questions, sa fille part avec un homme, incroyable. Elle pose pas plus de questions. C'est totalement incroyable. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, en tout cas, ce qui a l'air vrai, c'est que c'est peut-être, en effet, ce fait divers qui aurait éventuellement inspiré Nabokov, en tout cas dans la trame. Parce que là où Arnaud a raison, ça faisait très longtemps qu'il était travaillé par le thème de la Lolita, par cette histoire-là, par ce thème-là. Lui a toujours dit que c'était parce que c'était en écho à des amours enfantines quand il était petit sur la plage avec une petite fille qu'il a plus revue, et que la Lolita, c'est ça.
Mais c'est là, quand même le titre du livre, c'est l'affaire qui a inspiré.
Mais là, mais elle a pas forcément raison. C'est pas parce que c'est son site qu'elle a raison. Mais non, mais alors là où je te rejoins, Jérôme, que moi j'ai l'impression.
Faut pas croire tout ce qui est écrit, hein, quand même.
C'est pas parce que c'est imprimé que c'est vrai, tu sais. Que là où peut-être, comme je disais, cette affaire l'a inspiré, c'est dans la trame. C'est-à-dire que tout d'un coup, on retrouve quand même des points communs qui sont, en effet, tu as raison, le passage de motel en motel, le fait qu'à mon avis, Humbert l'inscrive à l'école et se fasse passer pour son père. Or là, c'est la même chose avec Sally Horner et Frank LaSalle. En revanche, moi, ce qui m'a pas du tout plu, c'est cette espèce... Elle est très maligne, hein, parce qu'elle dit pas « oui, ce salon de Nabokov qui fait l'apologie de... » Elle dit tout le temps « oui, c'est un chef-d'œuvre, quel immense écrivain, etc. » Mais son écriture est tellement belle qu'en fait, elle cache la vérité de ce que c'est qu'être une petite fille et être violée. Et ça n'était pas du tout le propos de Nabokov. Donc elle lui fait un procès qui est extrêmement insidieux, qui est, je trouve, très pervers, hein, où elle dit « moi, mon geste d'écrivain, ça va être de montrer c'est quoi quand on est une vraie Lolita et qu'est-ce qu'on souffre, ce qu'on ne trouve pas dans le livre. » Donc elle ne l'accuse jamais et au fond elle accuse Nabokov quand même de pas avoir dit.
Bon. Oui.
Or c'était pas le propos de Nabokov. Nabokov, son propos, c'est de montrer c'est quoi quand on est dans la tête de quelqu'un qui est obsédé par quelque chose et d'une obsession morbide et mortifère et en effet blessant une petite fille en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est que cette folie-là ? Voilà, c'était son propos à lui. Et Nabokov a toujours dit d'ailleurs en interview que la petite était abusée. Il a jamais dit que c'était une perverse ou que c'était...
Olivia.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nelly. J'ai été très intéressée par le livre. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même toutes les résonances qui existent entre certains passages de Lolita et cette histoire que je ne connaissais pas, ce fait divers tragique de cet enlèvement de cette petite fille. En fait, assez vite, moi, je me suis pas tellement intéressée parce que je trouve qu'elle n'est pas très convaincante, effectivement, et qu'elle n'arrête pas de poser des questions morales qui me dérange sur effectivement la beauté de l'écriture de Lolita qui efface les sévices faits à une enfant. Mais je trouve que le livre est juste intéressant avec ce fait divers de cette petite Sally qui est incroyable parce que ce qui est démontré, c'est à quel point cette petite fille a été enlevée pendant 21 mois sans aucune violence. Elle a été à l'école, elle avait des amis, il y avait des voisins. Donc elle a eu 1000 occasions de s'échapper, de courir dans la rue pour dire qu'elle était victime d'un pédophile qui l'a violée le deuxième soir de l'enlèvement. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'elle montre le fonctionnement du cerveau de cet enfant, qui finalement...
11 ans, je le rappelle. Hein.
11 ans, ne reçoit de preuves d'amour que de cet homme qui la viole. Et donc, à partir de ce moment-là, elle pense que cet homme a raison. Et donc, elle ne provoque aucun remous. Et il y a un autre personnage qui est génial, c'est la voisine, ils habitent dans des caravanes, hein. C'est des gens qui ont des existences extrêmement précaires, qui est une femme qui s'appelle Ruth, elle a 9 enfants, elle a été mariée 10 fois, ce qui est quand même pas banal, hein. En tous les cas, pas dans mes amis. Et c'est elle qui va remarquer, en voyant la petite fille marcher, dans sa démarche traînante, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette petite fille, qu'elle va convoquer chez elle dans sa caravane, elle va lui dire « qu'est-ce qui se passe ? C'est ton père ?» Et là, la gamine va dire « non, c'est pas mon père », elle va lui donner un téléphone et elle va appeler sa mère. Je vous jure, il y a des trucs saisissants dans cette histoire.
Cette scène est folle.
Lolita, la véritable histoire, l'affaire qui a inspiré le chef-d'œuvre de Nabokov, c'est au seuil. Et c'est signé Sarah Wenman. Et on en aura fini avec les abus sexuels, avec l'affaire Nobel. Après, on passera à des choses plus, si on a le temps, plus légères. L'affaire Nobel chez Grasset, l'enquête du journaliste et écrivain Olivier Truc, qui vit à Stockholm depuis 25 ans. et qui raconte les coulisses de la fameuse crise qui a frappé depuis 2 ans la célèbre Académie Nobel. Tout commence en novembre 2017 quand un quotidien suédois révèle que 18 femmes accusent de harcèlement sexuel et de viol un Français, Jean-Claude Arnault, mari d'une membre éminente de l'Académie, la poétesse Katharina Frostenson. S'y ajoutent des soupçons de fuite sur les lauréats du prix Nobel de littérature. Et donc, Olivier Truc, il a mené son enquête, il a écumé les archives de l'Académie, il a rencontré des personnalités du monde des lettres, montré comment un Français sans éclat était devenu le Weinstein suédois, et puis aussi raconté les conflits autour de grands refusés comme Zola, Freud ou Strindberg. Et puis c'est aussi un portrait en creux de la Suède, à la fois monarchique et démocratique, où on le sait, 2 prix de littérature viennent d'être attribués, celui de 2018 et celui de 2019, c'est-à-dire à Olga Tokarczuk, qui est une Polonaise, et à Peter Handke. Plus rapidement, vous me dites ce que vous pensez de cette enquête sur l'affaire suédoise, Michel ?
Ça m'a intéressé en même temps, pas tant que ça.
Ah bon ?
Ça m'a intéressé pour des raisons qui sont peut-être pas vraiment au cœur d'ailleurs du livre. C'est l'accompagnement littéraire des écrivains suédois qu'on a lu beaucoup ces 30 dernières années et qui ont joué un rôle finalement dans la représentation de l'époque dans laquelle nous vivons. Les écrivains suédois ont été très en première ligne. Et
ouais, mais sont... ça, c'est pas pour le coup, c'est pas le sujet du.
Ben non, mais c'est livre. Ce qui m'a intéressé. Je suis désolé. Oui. L'histoire en question qui est au centre du livre. M'intéresse pas.
Ok, d'accord. Olivia ?
J'ai le droit, hein.
Ça montre que la Suède est le pays où les femmes sont sans doute les plus féministes du monde et où les hommes sont les plus anti-féministes du monde. Il y a une peinture des membres de l'Académie comme des mecs ignobles. Alors, il faut dire que leur emblème, c'est génie et goût. On se dit, ça fait beaucoup pour les mêmes personnes, qui sont tous, notamment un gars qui s'appelle Horace Engdahl,
oui. Ouais.
Un homme monstrueux. Alors là aussi, c'est comme disait mon ami Arnaud, les pénis ont leur vie propre, puisque c'est un homme qui a écrit...
Pas moi qui le disais, hein,
La pénétration de la femme est pour toujours une défaite pour la femme et une victoire pour l'homme. Bon, voilà. Je vous demande de méditer cette phrase dimanche soir chez vous, devant la soupe.
Je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans cette émission. Moi, souvent, je pousse des pions en faisant le programme, mais je ne savais pas que ce serait à ce point cohérent, quoi.
J'en parlerai à mon pénis.
C'est un livre qui montre que le modèle suédois, alors là, est une sorte de leurre, jusqu'au président d'IKEA, qui non seulement était un pingre, mais en plus se servait de l'argent, vous savez, de toutes les bibliothèques Billy que vous avez achetées pour financer un parti nazi, jusqu'aux années 50, quand même.
J'ai tout revendu.
Le livre, je trouve, est un
peu... Tu parles très peu de M. Arnault, hein.
Et M. Arnault, qui est un monstre.
C'est quand même un monstre.
Arrêtez.
Oui.
Si, c'est quand même une sorte de dégueulasse de Weinstein suédois.
Vous parliez pas de moi.
Mais non, Monsieur Arnaud, Jean-Claude
Arnaud. Monsieur Arnaud, ça va être encore pour moi.
Donc il avait pour victime des filles un peu fragiles et tout, à qui il promettait de l'argent, et tout le monde le savait, et personne n'a rien dit, comme dans toutes ces affaires. C'est un livre qui raconte des trucs dégueulasses. Le livre est un peu confus, un peu...
Il
veut tout mettre.
À la fois la Suède, qui connaît bien où
il
vit.
Il est un peu dans le désordre.
C'est un peu remonté comme un meuble IKEA.
Voilà, et puis au bout d'un moment, on commence un peu à se lasser des querelles entre le poète Hafnats de Dur et Hafnats de Tar.
C'est beaucoup de son.
Arnaud,
Vivian, pas monsieur Arnaud.
Oui, c'est ça. Merci. Non, eh bien, écoutez, c'est le seul livre du programme qui m'a pas énervé, ce qui est déjà un truc bien, je trouve.
Pierre Tolas, il t'a énervé ?
Ouais, Pierre Tolas m'a bien énervé, mais on n'y est pas encore. Mais en revanche, il m'a totalement ennuyé. Donc, si vous voulez, voilà. La seule chose qui m'a beaucoup plu, mais vraiment qui m'a fait plus que ma journée, c'est que j'ai appris que mon cher Etiamble a été sur la liste des Nobelisables. Et je pense qu'il ne l'a jamais su. Et je pense qu'il en aurait été très, très fier. Ce pauvre Etiamble qui est complètement aujourd'hui...
Un écrivain et un homme merveilleux.
Merveilleux, absolument un génie absolu de la littérature et de l'idée même de la littérature.
Et de la langue.
Et je pense qu'il ne l'a jamais su. Et c'est ça qui me... Voilà. Et donc, je crois que sa fille est toujours de ce monde, qui est une fille qu'il avait avait adopté d'ailleurs. Et j'ai pensé à elle et cette information a juste fait plus que ma journée.
Nelly, quelques mots peut-être.
Alors moi, ce qui a fait ma journée, c'est qu'ils passent leur temps à recevoir la médaille de l'ordre de l'étoile polaire. Et ça, c'est un côté suédois.
T'en rêves ? Il y a toujours...
Ouais,
hein,
j'aimerais bien l'avoir.
Sûr.
Tu peux faire quelque chose, Jérôme ?
Non, je ne peux rien faire.
Il y a toujours un côté sympa avec les, avec les Suédois, même dans le pire de la tragédie. Il y a toujours un côté assez charmant. Non, ça m'a un peu ennuyeux. Ça partait tambour battant, un peu comme un polar.
Oui, le début est pas mal, l'explication de l'affaire.
D'autant que le livre est sorti au moment où on décernait ces deux fameux...
Mais la question des fuites est primordiale, en fait.
Hein. Pardon ?
La question des fuites,
oui, les fuites,
en fait, est primordiale, par ailleurs.
En règle générale, c'est toujours un problème, les fuites.
Et c'est toujours le pénis incontrôlable, quoi. C'est toujours ça. Ouais.
Bon, tu veux rien ajouter, Nelly, non ?
Non, non, c'est
bon,
tout, là.
L'affaire Nobel, les fuites, donc, c'est chez Grasset, et c'est Olivier Truc. Allez, on termine avec La police des fleurs, des arbres et des forêts, chez Albin Michel. Un livre que j'ai inscrit un peu pour toi, Michel. Retour dans cette émission, puisque c'est un roman épistolaire en plus, de Romain Puertolas, qui est lui-même... un ancien, je crois, capitaine de police, ou il l'est toujours, je ne sais pas.
Tu me poses la question ?
Et surtout, l'auteur de L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire à Ikea. On revient en Suède. C'est incroyablement bien monté, cette émission. vendu à plus de 800 000 exemplaires, dont Michel Crépu avait été l'ardent avocat au masque et la plume. Tu te souviens ?
Oui, oui, je m'en souviens très bien. J'avais lu le livre avant...
Tu étais jeune.
Comment ?
Tu étais jeune.
C'est... Oui, j'étais très jeune. Sur les photos, on voit, c'est étonnant, c'est émouvant.
Et donc,
Oui, pardon. Oui.
Ce polar, non, je le dis vite, je vais te avoir la parole, ce polar se déroule dans un petit village du sud de la France pendant la canicule de 61 et on retrouve dans ce village un corps découpé à la scie à métaux, placé dans des sacs en papier très importants des Galeries Lafayette, au fond d'une énorme cuve à confiture de la maison Bonito. Faites attention si vous prenez vos confitures là. Un inspecteur est dépêché sur les lieux. Il est secondé par le garde champêtre qui dit appartenir à la police des fleurs, des arbres et des forêts. Et on apprend que la victime, faut rien dire de plus, avait 16 ans. C'était un âne à l'école et un fugueur. Et parmi les suspects, Martine, une voisine, dont l'inspecteur découvre qu'elle cultive dans son garage des gaillardes, qui sont des fleurs qui ressemblent un peu aux marguerites, et qu'on a retrouvé, Michel, dans l'usine à confiture. Alors, il ne faut pas révéler, évidemment, la fin.
Ah non, mais ça, je...
Que vous l'aimiez ou pas, non, mais je me tourne vers toi. D'ailleurs, il y a un préambule où il nous explique qu'un coup de théâtre époustouflant remet tout le récit en cause. Et c'est vrai que quand on le sait à la fin, c'est vrai que ça change tout. Bref, Michel, est-ce que tu es toujours fidèle à Puertolas ?
Ben, pas vraiment. Je suis désolé, non. L'histoire du fakir était formidable et c'était une belle histoire. Enfin, j'avais beaucoup aimé ça et j'avais trouvé ça infiniment drôle, enfin, comique.
Il était porté depuis à l'écran, d'ailleurs.
Et qui a changé sa vie, enfin. Mais là, non, ça ne m'a pas pris, ça ne m'a pas intéressé. Même la fantaisie qu'il a habituellement, enfin, qu'il peut avoir, en tout cas, qu'on peut se ressentir, là, ne fonctionne pas. Je trouve ça alambiqué. Et puis, en plus, mais ça, c'est pas de sa faute, j'ai lu le livre au moment où on parlait dans les journaux d'une affaire absolument épouvantable, un peu du même ordre, de cette femme qui a découpé sa voisine de bureau en rondelles parce qu'elle était jalouse et qu'elle a disposé les morceaux de sa collègue tous les 20 mètres en mettant la tête dans le frigidaire. C'est un truc qui m'a scotché.
T'as eu peur, quoi.
Ça nous guette.
Et du coup, Puertolas...
En même temps, tu me rassures, t'es pas arrivé à la fin, donc, apparemment.
Non, ça, je peux pas te parler de la fin. Je parle plus de la fin.
Voilà. C'est la preuve qu'il y a une fin, ce qui est quand même la meilleure nouvelle.
Arnaud.
Et que ce livre a une fin, d'ailleurs.
Arnaud ?
Alors, j'étais en train de le lire... à une terrasse de café, quand soudainement une bande de jeunes critiques littéraires très excités défilaient dans la rue en disant « tout le monde déteste la police ». Je disais « mais comment ils le savent ? Ils l'ont pas encore lu quand même, c'est extraordinaire ». Et effectivement, j'ai bien détesté la police. D'ailleurs, mon fils de 9 ans, quand il a vu le titre, il m'a dit « mais c'est atroce ce titre ». Il avait bien raison. Hein.
Je rappelle la police des fleurs, des arbres et des forêts.
Voilà, s'il y a bien un endroit où on n'a juste pas envie de police, ça pourrait être juste avec les fleurs, les arbres, arbres et les forêts. Et quant au reste, si vous voulez, il me semble que un certain Apulé racontait cette histoire deux siècles après Jésus-Christ. Et donc, voilà, ça ne nous rajeunit pas vraiment. Quoi.
Ah, ce vieil Apulé.
Hein?
Olivia.
Nelly disait très justement que Les Testaments de Margaret Atwood étaient un livre pour les adolescents. Là, je dirais carrément que c'est un livre pour les enfants. C'est Oui Oui et Potiron mènent l'enquête. Potiron, c'est le plus malin, vous voyez, c'est le nain. Et Potiron, donc, c'est le flic des villes. Et Oui Oui, c'est le flic de la campagne, qui est un ahuri, idiot, oui, qui dit oui oui tout le temps, d'ailleurs. Honnêtement, je trouve ça inconcevable que ça soit publié dans une collection pour les adultes. C'est vraiment, d'ailleurs, cet écran très gros.
Il n'y a plus d'adultes, en fait.
Peut-être il n'y a plus d'adultes, ou je ne sais pas, ou peut-être il n'y a plus d'éditeurs adultes, je ne sais pas. Mais honnêtement, c'est-à-dire que jamais vous ne pouvez imaginer croire à une seule ligne de ce livre. On voit bien que tout est fabriqué. Bon, alors comme il a pris la précaution, parce qu'il est quand même malin, de nous dire qu'il y avait une fin extraordinaire, j'ai quand même été jusqu'au bout pour savoir la fin extraordinaire, qui est assez marrante.
C'est un vrai coup de théâtre, cela dit.
Mais dans un livre pour les enfants aussi. Moi, je pense que vraiment, je vous dis, oui, oui, et Potiron mène l'enquête à la campagne. Bon. Il fait chaud. Non.
Bon, bah, c'est pas réussi,
je sais pas,
ma soirée-là.
Nelly. Non, tout pareil. Et je trouve qu'en effet, il y a une forme un peu d'abêtissement. Enfin, je sais pas si c'était comme ça avant, enfin, depuis toujours, j'ai pas cette impression. Que là, il y a un peu quand même une recrudescence de livres pour enfants ou jeunes adolescents qu'on nous fait passer pour.
Mais il y a des livres pour enfants qui sont merveilleux.
Oui,
merveilleux.
Je me rappelle, tu avais adoré Harry Potter ici même, tu avais défendu Harry Potter. Je me rappelle
que moi aussi, j'adore Harry Potter.
Non, mais il y a des livres pour les enfants extraordinaires.
Et le Puertola, c'est quand même très neuneux. Et à un moment donné, j'en pouvais tellement plus. Puis ce côté terroir et ce côté on se fout des gens de la campagne, mais évidemment à un moment donné, ça va se retourner contre celui de la ville. Alors j'ai zappé, je pense, 100 pages pour aller à la fin.
N'y tenant plus.
Et la fin, je l'ai trouvée aussi très neuneux et pas du tout époustouflante.
Ça veut dire quoi?
Neuneux est un indice, attention.
Là, on vous la police des fleurs, des arbres et des forêts, c'est chez Albin Michel.
Exactement.
Et c'est Romain Puertolas. Deux minutes avant de passer au conseil de fin d'émission. Qu'avez-vous pensé de l'attribution du prix Goncourt au roman de Jean-Paul Dubois, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, à l'Olivier, dont Le Masque avait parlé, c'était quand on était, je crois, à Nancy, où la tribune était assez partagée d'ailleurs. Mais voilà, il a cette consécration suprême, en tout cas en France. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Nelly?
Moi, j'ai trouvé ça très décevant. Quoi. Je trouve que c'est un livre qui a une odeur incolore, qui est extrêmement académique, qui est très ennuyeux. Il n'y a pas d'écriture. Non, je suis très. Mais ça dit, moi, j'ai jamais aimé Jean-Paul
Dubois.
Non,
oui, ça va pas la tête.
Non, mais pendant que Arnaud Bois, j'essaye d'animer la scène. Non, vraiment, je trouve ce livre tout à fait inintéressant. Il y avait des auteurs beaucoup plus intéressants à cette rentrée. Il y avait notamment ceux que j'adorais de Santiago Amigorena, Leonora Miano.
Mais c'est pas incompatible. Et
d'autres.
On peut aimer Dubois et Amigorena.
Non,
là,
la preuve que non, tu vois, parce que c'est lui qui l'a eu. Et je pense que le Goncourt, il y a une responsabilité parce que ça va être extrêmement traduit. Et à l'étranger, ils ont déjà du mal avec la littérature française. Ils prennent pas le risque de la traduire parce que les gens ne l'achètent pas. Alors là, je pense que ça va encore plus être décevant et ça va les refroidir sur la littérature française.
Mais vous répondez brièvement. Michel.
Mais qu'est-ce qu'on attend du Goncourt? Enfin, moi, personnellement, je n'attends rien du Goncourt.
Bon, bah, aussi arrêter de poser des questions sur l'actualité. Olivia, un mot?
Bah, moi, j'en suis ravie. D'ailleurs, appelez-moi Madame Irma, parce que je l'avais prédit à Nancy.
Absolument, mais moi, je l'avais dit aussi à Nancy.
Voilà, donc Madame Irma et Monsieur Irma. Moi, j'adore ce livre. J'adore Jean-Paul Dubois, j'adore Olivier Cohen et j'adore les éditions de l'Olivier, donc je suis très contente.
Arnaud,
moi aussi, j'adore les éditions de l'Olivier. Misé, je suis très contente pour eux.
Je me suis déjà exprimé
sur
ce livre.
Sur Amélie Nothomb, toi.
Oui, j'avais misé sur Amélie Nothomb et je constate que c'est une victoire par 6 voix contre 4. Du protestantisme contre le catholicisme. Voilà.
Bien, voilà. Allez, maintenant un conseil pour terminer cette émission. Je précise que c'est un conseil positif. on va commencer par Maître Crépu.
J'en ai un, justement, ça, tu tombes bien. Cette année, je me suis absolument régalé. Alors, c'est anglais, George et Whedon Grossmith.
Mais est-ce qu'on peut le lire en français?
Oui, on peut lire. Journal d'un homme sans importance.
Bon, bah alors dis-le en français.
Qui date de 1910 à peu près et qui est désopilant. Là, je ne l'ai pas amené pour la montrer, mais il y a une bande avec une citation d'Evelyn Waugh qui est épatante, où Waugh dit « C'est ce livre est le plus drôle du monde. C'est, moi, je marche. »
Et c'est chez
et c'est aux éditions Noir sur Blanc.
Le conseil de Nelly.
Alors moi, c'est une réédition, mais augmentée, de Pierre Le Tan, ce très grand dessinateur et auteur qui vient de disparaître.
Illustrateur de Modiano.
Illustrateur de Modiano. D'ailleurs, Modiano signe la préface de ce livre qui s'intitule « Paris de ma jeunesse » et qui est un texte que Pierre Le Tan avait publié en 1988, qu'il a repris avant de s'éteindre. Il se savait très malade et c'est ce texte-là qu'il a choisi de republier, de nous laisser en fait. Et c'est sur son enfance et sa jeunesse dans un Paris des années 50 et 60, c'est en effet complètement modianesque, dans des quartiers totalement romanesques aussi de Paris, le 16e, le 8e, les abords de la Seine, se confond de souvenirs réels. Alors son père était le fils du vice-roi du Tonkin, et donc il va chez des tas de d'expatriés vietnamiens qui vivent en exil, des princes, des tout est totalement, on ne sait pas si c'est inventé ou pas, c'est absolument magnifique.
Et c'est un trait d'une délicatesse, d'une élégance absolument incroyable. Mon conseil, ce sont les chroniques de l'homme d'avant de Philippe Lançon aux éditions Les Échappées, soit une cinquantaine de ses chroniques publiées dans Charlie avant, évidemment, l'attentat du 7 janvier 2015, avant la rédaction du Lambeau. Et Lançon, dont le modèle, est, il le dit dès la préface, est le Mauriac du bloc-notes, saisi comme personne l'air du temps. Il relate ses voyages en Amérique latine, il écrit une ode magnifique au couche-tard. Il parle des journaux papier, comme de dinosaures enfermés dans un journalistique parc. Il est drôle, d'une insouciance incroyable, évidemment, et note, par exemple, l'imprévisibilité du passé, bien plus que celle du futur, devrait d'abord nous faire réfléchir sur l'imbécilité du présent. Et ses chroniques de l'homme d'avant de Philippe Lançon, aux éditions Les Échappées. Le conseil d'Olivia.
Un dimanche à Ville d'Avray de Dominique Barberis, qui était sur la liste du concours. On peut quand même poser la question, où sont les femmes dans les grands prix littéraires qui ont été décernés?
Oui, je suis d'accord. Oui.
Zéro
oui.
femme.
Oui. Au prix décembre, quand même.
À part le prix décembre, mais est-ce parce que les pénis ont leur vie propre hein, qu'aucune femme n'a reçu de grand prix cette année? C'est quand même un peu bizarre. Dominique Barberis était donc sur la première liste du concours. C'est un livre extrêmement modianesque aussi. Deux sœurs, l'une habite à Paris, l'autre à Ville d'Avray. Elles se retrouvent une après-midi et l'une va raconter une histoire extraordinaire qui lui est arrivée. C'est un très très beau livre publié chez Arléa et il aurait mérité d'avoir un grand prix.
Et le conseil d'Arnaud ?
J'ai lu un chef-d'œuvre, mais vraiment, le plus beau livre que j'aurais lu cette année, ça c'est sûr. Son titre est juste magnifique. Il s'appelle Quel avenir pour la cavalerie. Il est sous-titré Une histoire naturelle du vers français. Je n'ai pas du vers de terre, mais du vers poétique. Il est signé Jacques Reda, l'ancien directeur de la NRF, aujourd'hui le prédécesseur de Michel Crépu, poète, critique de jazz, et donc il fait un livre qui fait 250 pages, qui est certes un peu dense, mais juste magnifique, oui. où vous explique comment on est passé du décasyllabe au Moyen-Âge à l'alexandrin, puis au vers libre. Il vous raconte comment la langue française a évolué, grandi à travers la versification. C'est juste, mais magique, d'une intelligence, d'une science absolument, du langage absolument incroyable, très proche d'ailleurs d'Étiamble. Et franchement, ce livre-là, si vous aimez la poésie, mais allez-y.
Et profitez-en
c'est un
pour
livre
lire
magnifique.
Ce que vous trouvez de
Jacques Reda qui a 95 ans.
Ce sont des livres absolument merveilleux. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Nelly Capriélian, Arnaud Vivian, Michel Crépu pour cette émission qui a été, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique ce soir au théâtre de l'Alliance française. Et je les remercie, il y avait Cédric Châtelu, Lydwin Caron ainsi que Romain Lenoir. La réalisation était signée Xavier Pestugia et vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 21 novembre. C'est à l'Alliance française 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter évidemment.